Et juste après, Jésus descend dans la mort et il revient vainqueur de la mort. Voilà, victorieux, ressuscité, hein, il a vaincu la mort. En d'autres mots, les deux victoires que Jésus accomplit sur la croix, victoire sur le péché, victoire sur la mort, ce que disait Benoît XVI, là où l'homme est toujours vaincu, eh bien seul Jésus est vainqueur, contre le péché et contre la mort. Vous voyez, on peut rien y faire, nous, sur ça. Hein. Et donc, c'est pour ça que Jésus est venu, pour vaincre hein, ces deux victoires pour nous. Et ensuite, ce qu'il a fait il y a 2000 ans au Golgotha, il veut que ça soit rendu présent dans mon cœur aujourd'hui, à Paris le Monial. Hein. Et donc, entre le Golgotha il y a 2000 ans et aujourd'hui, eh bien, Jésus va instituer l'Eucharistie. Hein, comme on dit, l'invention d'amour pour que ce qui s'est passé il y a 2000 ans puisse s'accomplir aujourd'hui dans mon cœur. Parce que je pense que si je vais à la messe, hein, ce que je veux, c'est recevoir un amour qui est plus fort que toutes les formes de mal que je peux rencontrer dans ma journée, dans ma semaine, hein, pour être toujours vainqueur, triomphé, grâce à Jésus, du mal autour de moi. Et puis, je veux aussi vivre pour toujours. Alors, qu'est-ce que Jésus fait hein, pour rendre présent cette victoire? Il institue l'Eucharistie. Juste avant de mourir, Jésus voilà, prend du pain et il dit « Ceci est mon corps hein, livré pour vous ». Il prend du vin, « Ceci est la coupe de mon sang versée par amour pour vous ». En d'autres mots, Jésus va comme déverser, envelopper hein, dans ce dernier repas eh bien, cette victoire, cette double victoire, ce qu'on appelle les fruits de sa passion hein, sont tout ce qu'il a obtenu sur la croix. Jésus les dépose dans un repas pascal. C'est un peu particulier, mais c'est tout le thème du mémorial. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ? Faites cela en mémoire de moi. En d'autres mots, chaque fois que nous faisons cela en sa mémoire, c'est pas simplement l'Eucharistie. Je me rappelle comme un monument aux morts aujourd'hui, hein, lorsqu'on va pour un monument aux morts, on se rappelle le sacrifice de tant de jeunes qui ont donné leur vie pour qu'on ait la paix, etc. Mais ici, eh bien, c'est beaucoup plus fort le sens du mémorial, c'est-à-dire que c'est non seulement un rappel, ce qu'il a fait pour nous, mais en même temps, ce qu'il a fait il y a 2000 ans est rendu présent sur l'autel. Voilà. De sorte que chaque fois que je vais à la messe, lorsque je pose cet acte de foi, hein, il faut poser cet acte de foi, c'est la foi qui me permet de toucher Dieu, hein, de toucher ce mystère, cette réalité de la mort et de la résurrection de Jésus. Et bien à ce moment-là, ce qu'il a fait sur la croix s'est rendu présent dans mon cœur. Hein. Alors, à la communion, oui, mais avant la communion. Hein, avant la communion, c'était Jean-Paul II qui aimait rappeler que dans l'Eucharistie, il y a trois réalités qui sont intimement liées. Il y a la partie messe, c'est-à-dire ce que je viens de dire lorsqu'on célèbre l'Eucharistie, cette victoire sur la croix est rendue présente. Hein, on dit que c'est le sacrifice de Jésus est rendu présent, efficace pour moi. Le simple fait de venir à la messe, même là je ne parle pas de communier pour l'instant, eh bien fait que je suis au pied de la croix hein, avec la Vierge Marie qui est là et je reçois déjà cette victoire sur le mal et cette victoire sur la mort dans mon cœur. Et je pose, hein, c'est par la foi, j'y crois, vous voyez. Et donc c'est ça qui fait que je reçois cela en moi. Ensuite, il y a la deuxième, donc ça c'est la dimension du sacrifice qui est rendue présent hein, à la messe. Ensuite, il y a la dimension de la communion. Alors là, c'est une question de demeurer, c'est Jésus qui vient approfondir sa présence en moi. Hein, et plus je communie, plus cette présence va être vivante au fond de mon cœur, au point que je pourrais dire, hein, comme saint Paul, ça n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et puis ensuite, bon, je développe pas trop la communion eucharistique, hein, c'est pas le thème. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension de l'adoration, qui commence dans la messe et qui se prolonge après la messe. Hein, et c'est ce qu'on fait en venant adorer le Saint-Sacrement. Je pense que ce qui plaît tant à Jésus dans notre adoration, c'est le fait que il n'y a aucun décret, aucune obligation, aucun précepte d'aller adorer le Saint-Sacrement. C'est pas obligatoire. Aller à la messe le dimanche, si on est catholique, on sait qu'il faut aller à la messe le dimanche. On se pose pas la question. Par contre, l'Église dit pas, en plus de la messe, il faut absolument venir devant le Saint-Sacrement dans la semaine pour rendre grâce à Dieu. Et le fait d'y aller, eh bien, ça touche notre liberté. Et c'est ça qui plaît tant au Seigneur. Hein. Et je pense que si un jour l'Église disait, bon, désormais, on demande à tous les catholiques, en plus de la messe, de faire une heure d'adoration eucharistique, eh bien, je pense qu'on perdrait beaucoup, hein, parce qu'on y serait forcé, hein, on irait. Alors, on n'est jamais forcé, de toute façon, d'aller à la messe. On sait bien que si l'Église nous invite à y aller chaque semaine, c'est parce qu'on en a besoin, hein, d'accord ? Mais en même temps, l'adoration, il y a quand même cette dimension de gratuité qui est là. Et cette gratuité, c'est ça qui plaît tant à notre Dieu. Alors, en même temps, c'est vrai que saint Augustin, j'aime bien citer le grand Augustin, il nous invite à l'émerveillement devant cette sainte présence. Parce que c'est vrai qu'on peut venir à la messe tous les dimanches, tous les jours, et petit à petit perdre hein, l'émerveillement devant la grandeur du mystère eucharistique. Et c'est vrai que l'adoration eucharistique est une école d'émerveillement, c'est une école de ferveur, hein, où en fait, qu'est-ce qui va se passer lorsque je suis devant le Saint-Sacrement ? Eh bien, je vais devoir, l'adoration va affermir ma foi. Hein. C'est vrai que souvent on pense, bien sûr, que c'est l'amour qui nous sauve, c'est l'amour qui est éternel, mais n'oublions pas que c'est par la foi, plus j'aurai la foi dans l'Eucharistie, plus l'Eucharistie va me nourrir. Hein. On peut venir à la messe, communier et ne pas recevoir grand-chose de notre célébration eucharistique parce qu'on n'y croit pas vraiment. Hein, malheureusement, beaucoup de chrétiens vont à la messe le dimanche, on leur demande « Est-ce que vous voulez adorer ?» Oh, bon, je vois pas pourquoi, à quoi ça sert. Hein, mais si on reconnaît qu'il y a vraiment Jésus qui est là, la question ne devrait pas se poser. Hein, alors, quand on vient devant le Saint-Sacrement, qu'est-ce qui se passe ? C'était le pape Benoît XVI qui disait que l'adoration eucharistique nous aide eh bien, à intensifier la grâce eucharistique. Il y a quelque chose qui va être intensifié dans notre adoration. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est de se dire tout simplement que lorsque je viens devant le Saint-Sacrement, je vais tout de suite me poser une question. Qu'est-ce que je fais ici ? Hein ? Qu'est-ce que je fais ici ? Et je pense qu'on se la pose tous. On arrive et on se dit, mais qu'est-ce que je fais ici ? Et donc, il y a deux possibilités. Soit on se dit, je perds mon temps, j'ai rien à faire ici, et on repart immédiatement. Hein ? Soit, eh bien, on pose un acte de foi. Seigneur, je crois. Je crois que tu es là. Seigneur, voilà, augmente ma foi. Seigneur, je suis là pour toi parce que tu m'appelles, tu m'invites. Hein, Seigneur, tu me demandes, voilà, de t'adorer, hein, le grand commandement. Donc, je suis là. Et c'est vrai que, voyez, ma foi va être aiguisée, renforcée, affermie lorsque je pose cet acte de foi devant le Saint-Sacrement. Et comme il y a 60 minutes dans une heure, peut-être 60 fois, eh bien, je vais devoir poser cet acte de foi. Et toute cette la foi hein, qui est mise en action, on peut dire, dans ce temps d'adoration, eh bien, fera qu'ensuite, quand je viendrai à la messe, eh bien, je vais être porté par une foi qui va être bien plus profonde et qui va faire que cette rencontre avec Jésus dans l'Eucharistie sera beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus nourrissante, beaucoup plus vivifiante. Hein. Mais si j'ai pas la foi, je peux communier, ça portera pas de fruit. Hein. Et c'est vrai que l'adoration, voilà, c'est une vraie école d'intensification de ma propre foi pour que la messe soit une rencontre vraiment très vivifiante avec Jésus ressuscité. Alors, l'adoration, on la trouve dans l'Ancien Testament. Pensons à Moïse. Bon, j'ai parlé un peu de Marie-Madeleine, mais déjà, pensons à Moïse, le buisson ardent. C'est beau de penser que voilà, ce mystère hein, du buisson ardent, où il y a Dieu qui est présent, et le buisson ardent, le buisson n'est pas consumé. Hein. Alors on peut penser, alors les pères de l'Église ont interprété ça avec la sainte humanité de Jésus, vous savez, avec Jésus qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme, et son humanité n'est pas détruite, consumée par la divinité. On pense aussi à la Vierge Marie qui porte Jésus en elle et qui n'est pas consumée. Hein. Mais on pense aussi, bien sûr, eh bien, à toute personne qui vient devant l'Eucharistie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un tel amour eh bien, qu'on devrait être complètement consumé hein, par cette présence divine qui est là. Mais Jésus retient les ardeurs, hein, c'est Saint-Pierre, Julien et Marc qui disaient ça, il retient les ardeurs de son amour pour ne pas nous consumer, hein, pour que son amour nous soit communiqué à la mesure de ce qu'on peut recevoir. Hein. Et donc Jésus, il retient, vous voyez, quand on est là devant lui, hein, pour ne pas nous anéantir, mais bien sûr, c'est pas du tout son désir, hein, mais comprenons que, voilà, on est tellement petit, hein, on est comme il y a ce mystère du buisson ardent, et qu'est-ce qu'on voit? Voilà, Moïse, il se prosterne, hein, retire ses sandales, cette terre est sacrée, etc., hein, pour signifier l'adoration du Dieu qui est présent. Donc, on retrouve cette adoration dans tout l'Ancien Testament. Hein, on peut dire que c'est une soumission émerveillée devant la majesté de Dieu. Voilà. Alors, ensuite, on a l'adoration chrétienne, c'est-à-dire que Jésus est venu nous dire que pour adorer le Père, eh bien, je dois passer par Jésus, hein, par Jésus. C'est par Jésus et par Jésus seul que je peux adorer le Père. Nul, personne ne va au Père sans passer par moi. Hein. Donc, le chemin pour aller à Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Voilà, ça c'est Jésus qui nous le rappelle. Donc, l'adoration chrétienne est une adoration où par Jésus, j'adore le Père, hein, et en même temps, je reçois l'Esprit Saint. Je reçois l'Esprit Saint. Alors, il y a toujours en fait une dynamique trinitaire, hein. C'est toujours par Jésus qui est venu me chercher là où je suis. Il me conduit vers le Père pour me combler de l'Esprit-Saint. On voit ça tout simplement avec le passage du bon berger. Que fait le bon berger lorsqu'il a trouvé sa brebis, hein, qui est blessée, qui est fatiguée, qui est perdue? Il va la chercher, il la prend sur ses épaules. Hein. Qu'est-ce qu'il fait ensuite le berger avec sa brebis sur les épaules? On peut penser qu'il l'amène à la bergerie pour la soigner. Hein. Et donc, qu'est-ce que fait Jésus? Qu'est-ce qu'il est venu faire il y a 2000 ans? Il est venu chercher l'humanité tombée, blessée, égarée, pour la conduire vers Dieu et la guérir par son Esprit Saint. Hein. C'est Dieu qui envoie cet esprit de vie, hein, son esprit qui vient nous guérir. Alors, c'est ce qu'on a dans l'adoration eucharistique. Vous voyez, j'ai dit l'adoration dans l'Ancien Testament, l'adoration chrétienne, l'adoration eucharistique. C'est comprendre que toute la vie de Jésus est une grande vie d'adoration, hein, c'est-à-dire que Jésus a toujours fait tout pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Si on se souvient ce passage, lorsqu'il rencontre l'homme riche, Jésus lui dit « Bon maître, toi qui es un bon maître ». Et vous vous souvenez de la réponse de Jésus? Non. La bonté, c'est Dieu. Il ne veut même pas prendre la bonté pour lui. Alors que Jésus est la personne de toute bonté, hein, il n'y a pas plus de bonté qu'en Jésus. Mais voyez, le mouvement de Jésus, c'est non, Dieu seul est bon, il garde rien pour lui. Hein. C'est-à-dire que Jésus va tout faire pour la gloire de Dieu, hein, il renvoie tout à Dieu, et en même temps, pour notre salut, parce que c'est la volonté de Dieu. Et donc, dans l'adoration eucharistique, en fait, ce qui se passe, c'est que Jésus a prié pour nous il y a 2000 ans, et cette prière de Jésus est rendue présente dans l'Eucharistie. Lorsque l'Eucharistie est célébrée, eh bien, cette prière de Jésus est là. En gros, il y a Jésus qui prie pour nous. C'était Monseigneur Brincard qui est décédé, vous savez, qui aimait dire que Jésus laisse au tabernacle sa grande adoration du Père. Cette adoration du Père, qu'il a faite il y a 2000 ans, Jésus la laisse au tabernacle. Pourquoi? Ou il la continue au tabernacle pour que l'Église, nous, on puisse entrer dans cette prière de Jésus. Et c'est Jésus qui me conduit vers Dieu le Père. En d'autres mots, lorsque je viens adorer, je vais m'unir à Jésus qui prie son Père maintenant, et il prend dans ce grand mouvement de prière, eh bien, ma petite prière, mes petites intentions, tout ce que je suis. Hein, et par Jésus, je sais que ma prière touche le cœur de Dieu. Non pas que je suis un bon priant, mais parce que Jésus est le super priant, c'est l'adorateur par excellence, et je viens simplement, voilà, je prends le train en route, hein, le train en route, c'est Jésus, le train, hein, qui va directement au cœur de Dieu, ou l'avion, la fusée, je ne sais pas comment dire, hein, et j'entre dans la prière de Jésus, qui me conduit vers Dieu, et dans ce mouvement-là, je reçois l'Esprit Saint. Chaque fois que je viens à la messe, chaque fois que j'adore le Saint-Sacrement, eh bien, je reçois une effusion d'Esprit Saint, qui vient non seulement m'évangéliser, me guérir, me transformer, hein, pour que je puisse devenir ensuite libre d'évangéliser. Je me laisse saisir, regarder, hein, je me laisse transformer par l'amour de Dieu pour pouvoir ensuite apporter cet amour. Mais lorsqu'on voit en Marc chapitre 3, hein, il est dit, Jésus appelle à lui ceux qu'il va envoyer ensuite. Vous voyez, Jésus ne va pas dire, toi, va faire ça, mais toi, viens à moi. Il appelle à lui, hein, passer du temps avec lui. On voit ça, les apôtres sont appelés à passer du temps avec Jésus. C'est ça l'adoration, être avec, l'écouter, se laisser transformer, guérir. Hein, c'est tout ce temps qu'on a besoin, nous aussi, de passer au pied de Jésus. Alors, dans la messe d'abord, évidemment, mais ensuite on prolonge ça dans l'adoration, pour ensuite être envoyé vers ceux que Jésus nous donne, nous met sur notre chemin. Hein, voilà. Donc, voyez ce mouvement trinitaire, hein, de l'adoration, c'est, voilà, je vais devant celui qui est l'adorateur du Père, qui me prend, il me saisit tel que je suis, il me conduit à Dieu, hein, et Dieu, voilà, vient toucher mon cœur. Le Père, hein, vient, voilà, il fait descendre son Esprit Saint là où j'ai besoin d'être guéri. Un petit témoignage dans ma paroisse à Saint-Maximin. Il y a une dame qui m'a dit il y a quelque temps qu'elle a vécu, une adoratrice donc, elle a vécu un événement absolument dramatique, hein, je ne sais pas si on peut vivre quelque chose de plus dramatique que ça. Elle était à Nice, vous savez, au moment où il y avait le camion fou là, qui s'est jeté sur la foule, et elle a tout vu. Voilà, elle a tout vu, alors c'est quelque chose qui l'a absolument traumatisée, hein, je pense qu'il n'y a pas de terme pour expliquer... ce qui s'est passé, hein, dans sa conscience, dans son inconscient, dans sa mémoire, et comment cette violence, hein, extrême, eh bien, l'a profondément, voilà, blessée, hein, au plus profond de sa psychologie, avec des conséquences sur son corps, sur sa personne, tout ça. Et elle me disait que, voilà, le seul lieu où elle est en paix, hein, c'est lorsqu'elle regarde Jésus dans l'Eucharistie. Lorsqu'elle regarde Jésus dans l'Eucharistie, eh bien Jésus vient toucher ici sa mémoire. Parce qu'elle, c'est sa mémoire qui a été blessée. Ce qu'elle a vu, hein, cette violence, eh bien c'est ça qui l'a fait tant souffrir. Et elle dit, c'est le seul lieu où elle est vraiment, elle se trouve bien, c'est lorsqu'elle est au pied de Jésus devant le Saint-Sacrement. Et nous aussi, peut-être que notre mémoire a été blessée par une violence, alors... Peut-être, on est peut-être victime, hein, on a peut-être souffert dans notre corps, dans notre esprit, dans notre âme, hein, ou alors toute cette société avec cet esprit, hein, érotique, là, de pornographie, etc., qui est constamment en train de bombarder, hein, nos esprits, quelle que soit toute cette influence extérieure du mal, hein, qui peut blesser nos psychologies, notre mémoire. Et donc Jésus, dans l'adoration, vient guérir, il vient visiter, il vient éclairer, voyez, notre mémoire. Alors, pas simplement la mémoire, bon, je donnais un petit exemple un peu extrême, hein, je reconnais, mais Jésus vient guérir aussi ma volonté, voyez, ma volonté. Hein. L'amour, c'est au niveau de la volonté, c'est choisir, je choisis d'aimer Dieu. C'est pour ça qu'on invite les adorateurs à donner une heure chaque semaine, à s'engager. Le fait de s'engager nous aide à nous fidéliser dans la rencontre avec Jésus au Saint-Sacrement. Mais peut-être que notre volonté a été blessée, on a été trahi, on a été abandonné, hein, et donc on n'ose plus s'engager, on n'ose plus croire en l'amour. Et donc Jésus vient guérir, hein, ma volonté. Voilà, il vient la visiter lorsque je suis là. C'est pour ça que dans l'adoration, j'ai besoin de passer du temps, hein, une heure par semaine. Alors c'est déjà pas mal, hein, une heure c'est long quand même, mais en même temps, voilà, on a besoin de passer du temps au pied de Jésus. Donc il guérit ma mémoire, il guérit ma volonté, on pourrait développer ça de mille manières différentes. Il guérit aussi bien sûr mon intelligence, hein, peut-être que je me suis fait piéger dans des fausses théories, mon intelligence s'est fait avoir dans des idéologies qui sont incompatibles avec l'Évangile, hein, peut-être que voilà, mon intelligence a erré, j'ai fait toutes sortes de bêtises à cause de ce que je pensais être bien, hein, Jésus me guérit aussi dans mon intelligence qui est faite pour connaître le bien, le bon, le vrai, hein, pensez à saint Thomas d'Aquin. Lorsqu'il faisait sa somme théologique, tantôt son intelligence se trouvait limitée devant des réalités de foi. Et qu'est-ce qu'il faisait, hein, il paraît qu'il allait dans la chapelle, il mettait sa tête sur le tabernacle. Voilà, Patrice ne connaît pas, je pense pas. Hein, et il posait sa tête sur le tabernacle en disant, Seigneur, voilà, ma pauvre intelligence, hein, viens l'éclairer. Voilà. Et donc Jésus vient aussi. Vous voyez, en gros, tout ça pour dire que dans l'adoration, avant d'aller évangéliser, j'ai d'abord besoin de me laisser évangéliser dans ce que je suis. Hein. Et c'est Jésus, là, quand je suis devant lui, lui seul sait hein, ce qu'il faut toucher dans mon cœur. Et donc, il faut vraiment, il faut être convaincu que Jésus travaille. Hein, Jésus travaille sans cesse. C'était Saint-Pierre Julien Aymard qui disait « Nous allons faire travailler l'Eucharistie ». Ça veut dire quoi, faire travailler l'Eucharistie? Eh bien, on expose Jésus au Saint-Sacrement et on se met à ses pieds en disant « Seigneur, nous, on a fait ce qu'on a pu, mais ce n'est pas nous le Sauveur du monde. C'est toi le Sauveur du monde. Hein ». On a essayé de faire un peu changer, un peu améliorer la situation avec ce qu'on est, mais c'est toi le vrai Sauveur du monde. Ce n'est pas moi qui vais sauver le monde. Hein, et on a besoin, pour rester dans cette humilité, eh bien, de nous placer au pied de Jésus en disant « Maintenant, à toi de jouer ». Hein, où on trouve ça dans tous les évangiles. Hein. Chaque fois que quelqu'un pose un acte de foi, Jésus fait un miracle. Et quand il n'y a pas la foi, c'est-à-dire quand l'homme veut faire par lui-même, veut se sauver par lui-même, par ses œuvres, eh bien à ce moment-là, il est dit, Jésus ne pouvait pas faire de miracle. Et on voit ça dans Saint-Pierre Julien Aymard que je cite. Hein, il disait, lorsque Jésus revient à Nazareth, hein, souvenez-vous, il est dit là, il ne pouvait pas faire de miracle parce qu'il n'y avait pas la foi. C'est terrible de voir Jésus qui avait fait tellement de merveilles à Capharnaüm et dans tous les petits villages. Il revient dans sa ville hein, où il a grandi et là il est dit qu'il ne pouvait pas faire de miracle. Et c'était Saint-Pierre Julien Aymard qui commentait ce texte-là en disant qu'aujourd'hui, dans l'Église catholique est un peu comme Nazareth. C'est-à-dire qu'il y a Jésus qui est là en son cœur. Mais est-ce qu'on a la foi dans cette présence de l'Eucharistie? Est-ce qu'on n'est pas à Nazareth où on veut un peu se faire toutes sortes de choses, où on veut sauver le monde par nos propres forces, par nos propres plans, par nos propres théories, hein, mais avant d'aller humblement se mettre au pied de Jésus, parce que c'est lui, hein, c'est lui qui fait les merveilles, c'est lui qui fait les miracles. Et il avait ces expressions terribles, il disait, alors c'était au XIXe siècle, pourtant une église qui était peut-être plus dynamique, je ne sais pas, qu'aujourd'hui. Il disait aujourd'hui, Jésus est stérile dans l'Eucharistie. Hein, c'est terrible comme expression. Bien sûr, vous comprenez qu'il n'y a aucune stérilité possible dans l'Eucharistie. Hein, c'est le bois vert et nous sommes plutôt les petites branches un peu mortes. Hein, c'est lui, en demeurant sur la vigne, eh bien, qu'on reçoit la vie. Mais si on ne va pas chercher, si on n'a pas la foi dans cette présence de l'Eucharistie, où c'est Jésus, vainqueur du monde, qui est rendu présent, eh bien, on fait du vent, hein, je veux dire, on tourne en rond pour rien du tout, quoi. Alors, se laisser évangéliser pour évangéliser. Hein, alors, dans toutes ces formes, dans toute cette manière de vivre la charité,